tout le monde. Un excellent premier jour de la fête des pains sans levain. Vous savez, si vous célébrez cette fête en ce moment, ça dit quelque chose à votre Créateur, de très clair. Ça dit que vous désirez continuer de changer. Parce qu'on sait qu'en célébrant la fête des pains sans levain, ça signifie qu'on veut sortir les péchés qu'on a encore à éliminer de nos vies. Et on en aura à éliminer jusqu'au retour de Christ. On n'atteindra pas la perfection tant que Dieu ne nous rendra pas lui-même parfait à la fin de l'histoire. Mais il faudra être en train de s'en aller dans cette direction-là. Mais si vous célébrez cette fête, c'est parce que vous dites à Dieu, « Je veux continuer de changer. Je veux aller de l'avant, je veux vaincre toutes mes faiblesses. Et j'ai encore besoin de toi pour y arriver. » Il ne faut pas se décourager. Mais il ne faut pas diminuer. Et Dieu le voit. Et ça lui plaît. Comme un père qui a des enfants qui cherchent à lui plaire. Ça le réjouit, ça l'encourage. C'est exigeant, c'est difficile, oui. Mais il nous assure de toute son aide si on continue à faire nos efforts puis à le supplier de nous aider en nous montrant nos fautes puis en nous donnant la force pour les éliminer. Et vous savez, il y a une chose qui nous encourage aussi à garder le cap, c'est que le temps se fait court. On voit par les événements qui se produisent dans le monde que les prophéties se réalisent à vitesse grand V et qu'à ce moment-là, ça signifie que le retour de Christ est proche. Et ça veut dire soyez prêts, ayez vos reins sains, comme ça disait aux Israélites lorsqu'ils ont pris la Pâque, c'est-à-dire soyez prêts, soyez vêtus, ayez des œuvres, faites les œuvres que je vous dis de faire. C'est pas ça qui vous sauve, mais une fois que Dieu nous appelle, il nous montre qu'on doit vivre d'une certaine façon. Le temps est court et la fin approche. Et c'est important de ne pas nous laisser décourager non plus, même si on n'est pas encore parfait. Personne ne sera parfait tant que Dieu ne l'aura pas rendu parfait au jour du retour du Christ. J'insiste là-dessus. Il faudra être en train de travailler à le devenir, par contre, si on veut qu'il nous rende parfait à ce moment-là. Mais on ne sera pas personne d'entre nous parfait d'ici là. Alors, il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas ralentir non plus, ni se relâcher. Parce que ça peut être facile de, prendre les choses comme allant de soi, puis ne pas mettre l'effort ou l'intensité qu'on doit mettre. Monsieur Armstrong disait ceci, « Le vrai christianisme, c'est une façon de vie entière. » C'est vrai, quand vous y pensez, le fait de marcher dans les voies de Dieu, ça implique tous les aspects de notre vie. On l'apprend graduellement et on développe ces choses-là. Alors, ce n'est pas seulement de connaître Dieu ou de connaître la Bible. C'est de mettre en pratique les choses qu'on voit dans la Bible à mesure qu'on les comprend. Et de ne pas se décourager si on ne le fait pas parfaitement sur tous les aspects, mais de continuer à le faire avec son aide. Nous appliquer, autrement dit, à vivre de plus en plus selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, pour commencer le sermon. Et nous allons lire le verset 17 et 18. Dieu dit ceci, « Sortez d'eux, sortez du milieu d'eux. » Alors, dans le fond, il dit, « Sortez de cette société. » On ne peut pas sortir de la société physiquement. Le Christ, qu'est-ce qu'il a dit à son Père lorsqu'il est venu sur le point d'être arrêté puis de donner sa vie? Il a dit, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder dans ta parole. » Est-ce que c'est ça? Parce que nous, on doit continuer à vivre dans ce monde-là et on doit vivre différemment de ce monde-là. C'est un gros contrat. Il dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » C'est-à-dire, séparez-vous de leur façon de faire, qui ne sont pas conformes aux lois de Dieu. Et regardez bien, « Ne touchez pas à ce qui est impur. » Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Si je fais la démarche de commencer à faire ça, Dieu va être avec moi. Et plus je vais le faire, même si je ne suis pas parfait, plus Dieu va se manifester pour moi et va me donner la force. Et dit, « Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est formidable, parce que le fait que vous et moi, on s'applique à s'éloigner de ce qui est impur, de ce qu'on ne doit pas toucher, à ce moment-là, Dieu nous fait une promesse extraordinaire. Il nous assure de sa présence Il nous assure de sa protection et il nous assure de son aide pour qu'on développe graduellement son caractère. Dieu nous demande de vivre en pureté de vie. Il nous demande de vivre en éloignement de ce qui est mal, de se retirer de ça, de se séparer de ça. Il disait la même chose déjà dans Ésaïe 52. Vous pouvez vous reporter dans Ésaïe, le chapitre 52, verset 11. Regardez ce que Dieu a inspiré le prophète d'écrire à ce moment-là, il y a très longtemps. « Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, même principe. Sortez du milieu d'elle, de cette société avec ses voies de plus en plus mauvaises. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui avez son Saint-Esprit, soit en vous si vous êtes baptisé, ou soit avec vous si vous êtes en train d'aller vers le baptême, si Dieu vous a appelé, si vous comprenez certaines choses de la Bible comme vous les comprenez maintenant suffisamment même pour observer cette fête-là, c'est parce que Dieu a placé son Saint-Esprit avec vous. Et il y a des raisons de dire merci, parce qu'il y a des milliards d'êtres humains sur la terre au même moment qui ne connaissent pas ce que vous connaissez. Et de nombreuses personnes qui lisent les mêmes versets que vous lisez sans comprendre ce que vous comprenez. Parce que si vous le comprenez, c'est que ça vous a été donné. Et c'est que le Saint-Esprit agit avec vous. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Notre purification ». C'est la base de notre démarche. Parce que le Christ a donné sa vie pour payer l'amende de nos transgressions, de nos impuretés, si vous voulez, de tout ce en quoi on a transgressé les lois et qui attirait sur nous la mort éternelle. Il a payé l'amende pour nous, afin que nous changions une fois qu'il nous appelle, que nous nous éloignions des impuretés qu'on a commises auparavant. Et ça, c'est toutes les transgressions de toutes les lois que Dieu nous a données. Je vous donne une définition de ce qui est pur. C'est quoi quelque chose de pur? C'est important quand on donne un message de définir les choses pour qu'on sache de quoi vraiment il s'agit. Ce qui est pur, c'est l'état de ce qui est exempt de saleté, de souillure ou d'impureté. C'est très simple. Ce qui est complètement pur, c'est ce qui est exempt de toute saleté, de toute souillure et de toute impureté. Exemple, si vous avez une eau à 100 % pure, il doit avoir seulement dans cet élément-là H2O. Pas autre chose. Aucune poussière, aucune saleté, aucun autre corps étranger. On dit que l'eau est pure à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle est composée d'une seule chose. C'est de l'eau pure. Il n'y a pas d'autre chose dedans. C'est H2O. En d'autres termes, on peut dire, c'est la définition de ce qui est pur, que c'est l'état de ce qui est sans mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est l'état de ce qui contient aucun élément de nature différente de la chose elle-même. Aucun élément différent. Je vous donnais l'exemple de l'eau. Il n'y a pas d'autre chose dans l'eau pure que de l'eau. Il n'y a pas un autre corps à l'intérieur. Une seule nature, comme de l'or pur, par exemple. Quand on parle de l'or pur, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a plus d'autre matière. Il y a juste de l'or. Alors, dans le sermon aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde certaines façons pratiques. Comment devenir plus pur pour qu'on plaise à Dieu. Et en même temps, vous faire réaliser, pour ne pas que vous vous découragiez, que c'est un processus. La purification à laquelle Dieu nous a appelés, c'est un processus, c'est-à-dire que ça se fait graduellement dans le temps. On a des victoires, parfois on a des petites défaites, on va gagner sur certains aspects, et parfois on va reculer sur certains autres, mais il faut être en train de continuer fermement. Et là, Dieu est avec nous, il nous protège, il nous donne sa force. C'est un processus, la purification. Comme pour l'or et comme pour l'argent aussi. Mais comment est-ce qu'on purifie l'or? Comment est-ce qu'on purifie l'argent? Vous avez déjà lu beaucoup d'articles là-dessus. On a eu des messages, des sermons là-dessus aussi. C'est par le feu. C'est par le feu. Qu'on purifie l'or complètement, qu'on purifie l'argent complètement, qu'on enlève toutes les scories, tout ce qui doit être enlevé. Et en ce qui nous concerne, nous autres qui sommes appelés, c'est le feu des épreuves. La Bible donne l'exemple du feu comme pour nous servir de compréhension en ce qui concerne nos épreuves. Dieu nous donne des tests aussi. Et quand on réussit un test, il nous fortifie davantage et il y a d'autres tests qui s'en viennent. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Et on vit dans le monde qui est là, un monde de plus en plus dur. Et nous, on doit être de plus en plus différents. Et ça aussi, c'est des tests. Et on doit le supplier de nous aider à continuer, justement, pour continuer cette purification-là. Mais c'est des épreuves. On perd des amis, on perd des gens à qui on était attaché, parce qu'on ne croit plus les mêmes choses et certains nous rejettent à cause de ça. Mais à ce moment-là, il faut avoir la solidité de dire, moi, maintenant, je connais Dieu. Je ne sais pas de convertir les autres ni de les changer, mais moi, je dois être responsable de ce que je sais par rapport à mon Dieu. Allez dans Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, le verset 8, les béatitudes. Qu'est-ce qui est écrit? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le Christ a pris la peine de donner cet élément-là parmi les béatitudes parce que c'est quelque chose de fondamental dans le plan de Dieu, dans notre cheminement quand Dieu nous appelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voyez-vous, pour être capable de voir Dieu un jour, dans sa nature, tel qu'il est, faudra être rendu totalement pur au moment du retour de Christ. Et pour ça, il faudra être en train de s'en aller vers là, même si on n'est pas encore parfait rendu là. Et pour voir Dieu, je vais en parler un petit peu plus tard, pour voir Dieu tel qu'il est, dans son état actuel, il faudra être rendu de même nature que lui, de même caractère que lui. C'est pour ça qu'il nous appelle à changer, même si on est encore physique, pour développer son caractère, son tempérament, ses attitudes, sa façon de penser. C'est pour ça que la Bible dit « Revêtez le Christ. Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient dans le Christ. » On doit développer cette mentalité-là en éliminant les choses du monde puis en se purifiant. Et ce faisant, on devient de plus en plus comme le Christ le plus vieux de la famille. Et on se prépare à rencontrer Dieu. Éphésiens 5, regardez comment le Christ ici, Éphésiens chapitre 5, parle de sa future épouse. On sait par la Bible que sa future épouse, c'est l'Église. Il l'appelle sa fiancée. C'est formidable. Et regardez ici, Éphésiens 5 et le verset 25. « Marie, que chacun aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et sur le plan d'un mariage physique, ça donne un contrat très important pour les maris parce qu'on a à prendre vraiment soin de nos femmes, à voir à leurs besoins, les encourager, les aider, travailler avec elles et être de plus en plus proche de Dieu. Et ceux qui ont la bénédiction d'être en couple dans l'Église, bien, d'être de plus en plus proche de Dieu ensemble. Et c'est toute qu'une bénédiction lorsqu'on est tous les deux ensemble dans l'Église. Certains dans l'Église ou certaines sont seuls, le conjoint n'est pas là. Pour eux et elles, c'est beaucoup plus exigeant. Mais c'est une des épreuves qu'elles ont à traverser. Et si elles persistent, ceux qui ne comprennent pas, ou le conjoint ou la conjointe qui ne comprend pas, comprendront un jour. Et ils vous remercieront d'avoir tenu, parce que vous allez les accueillir dans le royaume. Et à ce moment-là, vous allez leur expliquer les choses de Dieu. Alors, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, voyez-vous, et en la lavant par l'eau de la parole. Oui, parce qu'à mesure qu'on étudie la Bible, on voit ce qu'on a à changer pour devenir l'épouse de Christ, pour devenir la fiancée qu'il veut avoir, pour développer son caractère, pour faire paraître devant lui cette Église, et regardez si on maintient le cap là-dedans, pour faire paraître devant lui cette Église au moment de son retour, glorieuse. Il va vous rendre glorieux à ce moment-là. Sans tâche, ça va être terminé. Vous serez capable de ne plus jamais pécher. J'aimerais ça que ce soit comme ça aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est ça que je disais tantôt, il ne faut pas se décourager, mais il faut tenir. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et en plus, à ce moment-là, Dieu qui a la capacité de ne plus se rappeler nos fautes passées une fois qu'il les a pardonnées, lorsqu'il nous rendra glorieux sans tache comme ça, le passé n'existera absolument plus. Absolument plus. Mais sainte et irréprochable vers la gloire. Il veut que nous soyons purs, il veut que nous soyons saints. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire le verset 6 à 8. On a lu ce verset-là à quelques reprises en préparation de la Pâque et des pains sans levain. C'est Paul qui écrit ceci aux Corinthiens. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la Pâque? On sait que le levain, ça représente le péché. Et il est en train d'expliquer aux Corinthiens que s'ils gardent dans leur vie un peu de péché, ben ça va déranger toute leur vie et ça peut les amener à perdre leur salut même. Si on garde, je parle de garder volontairement un peu de levain, là. Du levain, on en a, puis on veut s'en débarrasser, puis c'est la lutte de toute notre vie. Mais il dit, faut pas, une fois qu'on le voit, il faut travailler à l'éliminer. Et quand on est en train de travailler à l'éliminer, ça plaît à Dieu, il nous donne la force pour le faire graduellement. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il parlait ici aux gens qui avaient été baptisés, qui prenaient la Pâque. Et à chaque fois, on réitère notre engagement à suivre Dieu. On le remercie d'avoir été purifié et on lui demande de nous aider à continuer à se purifier. Il dit, « Célébrons donc la fête, c'est comme on fait aujourd'hui, la fête des pains sans levain, non avec du vieux levain. » Et on ne veut plus refaire les choses qu'on faisait qui étaient contraires aux lois de Dieu. « Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Le pain sans levain qui est venu du ciel, le pain du ciel de Christ, a toujours été sans levain. Il n'a jamais péché. On doit travailler à devenir comme lui avec son aide. On doit lui demander de vivre en nous pour combattre nos combats. Parce que moi, je ne suis pas capable de livrer mes combats. Il faut que le Christ m'aide. Il faut que je le supplie. Il faut qu'il voit que j'y tiens, que je maintiens, que je garde le cap. Alors, et on voit ici que la pureté puis la vérité, c'est deux concepts qui vont ensemble. La vérité de Dieu nous permet de connaître ce que Dieu veut voir en nous, cette pureté-là. Moralement pure. C'est-à-dire, je reviens à la définition, sans mélange, sans corps étranger, sans une autre matière qui n'est pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas encore le cas pour vous, ce n'est pas encore le cas pour moi, mais c'est notre objectif. C'est pareil comme le fameux exemple qu'on nous donnait là, quand on a un baril de pommes, des pommes saines, et il y a une pomme pourrite à l'intérieur. On n'a pas besoin de faire de longues études pour savoir que la pomme pourrite va finir par contaminer les autres. C'est jamais le contraire. Vous remarquez? C'est jamais les bonnes pommes qui vont amener la pomme pourrite à devenir bonne. C'est toujours l'inverse. Alors, c'est pour ça qu'il dit un peu de levain gâte tout ce qui est autour. Et c'est pour ça que nous, on doit avoir cette conception-là de toute forme de mal, c'est qu'on doit travailler à l'éliminer, s'appliquer à ça avec l'aide de Dieu. 2 Corinthiens 11, on est tout proche. 2 Corinthiens 11, et on va lire le verset 2. Paul dit ceci aux gens de Corinthe, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » C'est parce qu'il les aimait. Et quand le ministère de l'Église doit donner parfois des sermons correctifs ou aller voir quelqu'un pour lui mentionner qu'il doit changer des choses qu'il n'a pas réalisées ou des choses comme ça, c'est parce qu'on aime la personne. On est jaloux de cette personne-là, pas d'avoir ce qu'elle a, mais on est jaloux d'elle, d'une jalousie d'amour. C'est ça, dans le fond. Il dit, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce qu'il voulait leur bien. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et c'est pour ça que je vous dis qu'au moment du retour de Christ, on sera rendu totalement pur pour être capable de participer aux noces de l'agneau. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Et nous allons lire le verset 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Voyez-vous, ce qu'on a à faire, ce que Dieu nous demande, il faut le faire avec zèle, avec cœur, et ne pas murmurer. Des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et plus on avance dans le temps, je n'ai pas besoin de vous expliquer davantage, plus la société autour de nous se corrompt. Mais nous, on est là, au milieu. Et on va rester là encore un bout de temps, tant que Dieu ne nous aura pas sortis pour nous amener à un lieu de sécurité, tel que sa promesse est. Alors, il dit, « Irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Ça veut dire qu'on va devenir de plus en plus différent de cette société-là, à mesure que le temps va passer. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et plus on va avancer dans la méchanceté, je parle de la société, plus nous, on va paraître différents. Et on va paraître comme n'appartenant pas à ce monde-là. Et en fait, on ne lui appartient pas non plus, mais la différence sera plus marquée. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travailler en vain. Ça, c'est notre cheminement. vers la perfection, vers la pureté totale. Quand Dieu dit, touchez pas ce qui est impur, développez de vous éloigner de ça, débarrassez-vous de ça, développez le caractère parfait de Dieu. D'ailleurs, si vous pensez aux étapes qui s'en viennent dans le plan de Dieu, vous savez que le Père, lui, ne pourra pas venir sur la terre tant qu'il n'y aura pas un événement majeur qui va se passer. Vous pourrez aller voir dans 2 Pierre chapitre 3, je ne m'y reporterai pas, mais quand vous lisez le chapitre, on voit qu'à un moment donné, toute la surface de la terre sera brûlée totalement, sera purifiée totalement. Et c'est seulement après ça que Dieu le Père, pour la première fois, parce qu'il n'est jamais venu sur la terre, va venir sur la planète, parce qu'il ne viendra pas sur un endroit qui est souillé ou qui est impur. Il n'y aura plus aucune impureté, aucune souillure, rien d'impur. Ça va être le monde de l'éternité, mais dans la famille heureuse de Dieu. Ça va être fantastique. Alors, comprenez-vous qu'avant ça, le Père ne peut pas venir. Et quand vous regardez dans Apocalypse 21, verset 27, vous pourrez vous y reporter, ça dit que dans la Jérusalem céleste, la ville qui va descendre à ce moment-là, il n'y aura aucun souillé ou aucun impur qui va entrer. Oui, parce qu'il n'y en aura plus personne qui sera impur. Tous les êtres humains auront eu leur chance de choisir Dieu ou pas, et ceux qui auront refusé volontairement et tout ça auront été éliminés par amour de Dieu pour ne pas souffrir éternellement. Alors, c'est ce qui se passe. Dans la société actuelle, on le sait, ce n'est pas le monde de Dieu. Ce n'est pas le monde de Dieu. Et si vous parlez de pureté, c'est pas bien reçu. Ça a l'air passé date. Ça a l'air d'un concept ancien que les gens ne connaissent plus, parce qu'il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de principes moraux. Chacun fait ce qu'il pense, et la société connaît les résultats qu'elle connaît. Mais si on parle de pureté, ça semble dépassé, ça semble vieux jeu, et même on ridiculise ceux qui osent parfois dire qu'il existe des principes moraux. On dit « Ah, vous êtes moralisateur, arrière de moi ». Parce que la société moderne est de moins en moins capable d'accepter les choses de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'à la toute fin, bientôt, une fois que le grand faux prophète se sera manifesté, que l'Empire romain sera fondé et tout ça, on voit qu'il y aura la grande apostasie au moment du retour de Christ, c'est-à-dire que l'ensemble de la planète va se tourner contre le Christ lorsqu'il va descendre du ciel en pensant que c'est l'Antéchrist, alors qu'ils vont combattre le Christ lui-même, la grande apostasie qui est décrite dans les textes. On en parlait justement ce midi en partageant le repas. Alors, voyez-vous, pour Dieu, la question de pureté, c'est primordial. C'est un fondement de notre démarche chrétienne. Ici, j'aimerais vous donner un petit exemple pour qu'on comprenne certaines choses. On doit, nous autres, c'est le thème de mon message, s'éloigner de plus en plus des façons de faire de la société, qui étaient les nôtres auparavant. Puis on lutte encore avec certaines de ces tendances-là qui reviennent parfois chez nous. Alors, nous, on doit s'éloigner de plus en plus de cette façon de faire-là et de cette société-là qui se dégrade de plus en plus. Vous connaissez M. Gerald Weston, l'évangéliste de longue date dans l'Église de Dieu. C'est lui maintenant qui est responsable de l'Europe et qui est responsable encore du Canada. Et à un moment donné, M. Weston a donné une belle image de notre cheminement, puis du fait qu'on doit changer jusqu'au bout pour se préparer à être transformé par Dieu si on est dans cette direction-là lorsque le Christ va revenir. Il faisait le graphique suivant. J'ai pas de papier puis de crayon, mais imaginez-vous que ici en haut, c'est les voies de Dieu, la voie divine, OK? La voie de perfection, la pureté parfaite. En bas, vous avez la ligne qui est la voie de Satan, la voie de l'impureté, de tout le mal, toutes les transgressions des lois et de la société qui s'en va de plus en plus vers sa destruction totale. Alors, vous avez la ligne parfaite de Dieu en haut, et vous avez la ligne d'imperfection en bas qui descend vers la chute totale. Et nous, entre les deux, notre cheminement, ceux qui sont appelés à développer la nature de Dieu et le caractère de Dieu, c'est qu'on part de la société de Satan, et on doit graduellement aller vers la mentalité de Dieu, vers le caractère de Dieu, en se purifiant, puis en développant le caractère de Christ. Maintenant, il y a 3 possibilités en ce qui nous concerne. Alors, imaginez le graphique que je vous ai donné avec les lignes, là. Et nous, on travaille pendant ce temps-là pour atteindre la perfection, pour vivre selon la justice de Dieu. Première possibilité, une fois qu'on est appelé, c'est de changer. Donc, on vient de la voie de Satan, on commence à changer. OK? On commence à changer. Et là, on s'éloigne des façons de faire du monde. On est content, on est encouragé. Et on continue. On continue. On agit à ce moment-là mieux que le monde. Et parfois, pas parfois, ça nous encourage tout le temps, il faut que ça nous encourage, mais il faut continuer à changer. Parce qu'on peut agir mieux que le monde, garder une certaine distance avec la façon du monde d'opérer, garder cette distance-là, avoir le sentiment à ce moment-là d'être assez différent, de faire mieux que les autres ou de faire mieux un peu que ce que je faisais avant. OK? Et de me contenter de ça. Mais si je garde simplement la même distance du monde en m'en allant, OK? Je garde la même distance de ce monde-là qui, lui, descend. Moi, je descends avec. Mais j'ai toujours l'impression d'être mieux parce que je ne me comporte pas aussi gravement, je dirais, qu'avant. Mais il y a un piège là-dedans. C'est de penser être en train de m'approcher de Dieu alors que je me suis simplement approché un peu, mais que je ne bouge plus, sauf vers la descente. Parce que me pensant mieux que la société, me comparant à la société, je me pense mieux et je persiste dans cette ligne-là à égale distance de ce que j'étais au début. Ben oui, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je suis tiré vers le bas, sans m'en rendre compte, en pensant faire ce qui plaît à Dieu. OK? Alors que je dois aller plus loin, je dois aller plus loin que ça. Deuxième possibilité dans mon tableau, c'est être différent des voies de la société, même d'avoir fait beaucoup de chemin, et là, de travailler à garder la persévérance à ce niveau-là. Alors, on est bien sûr plus loin que dans le premier cas, des voies de la société. On est plus proche de Dieu que dans le premier exemple, mais on se maintient. OK? Est-ce que ça peut aller? On reste stable. On se fie au niveau de changement qu'on a déjà effectué. Et là, ça nous donne une zone de confort. Et on continue moins à chercher à changer. Voyez-vous, parce qu'on a comme atteint un certain niveau. Et je prends le mot, là, pour qu'on se comprenne bien. On a atteint comme un certain niveau. Mais il y a un piège là-dedans aussi. Vous connaissez la parabole des mines. Le Christ a donné des mines à chacun, puis il dit, faites-les valoir. Faites quelque chose avec. Changez le montant que je vous donne pour que ça gagne croissance là-dedans. Et qu'est-ce qui arrive en bout de ligne quand il vient faire les comptes? C'est que à ceux qui ont fait quelque chose avec, qui ont continué à avancer, à faire croître, à monter, il dit, bon, je vous en donne davantage. Mais à celui qui est resté, qui n'a rien fait avec tout ce qu'il avait reçu, il n'a rien fait avec tout ce qu'il avait reçu, content d'avoir reçu ça, mais pas chercher à aller plus loin. Le Christ dit, enlevez-lui ce qu'il pense avoir, puis donnez-le à la personne qui, elle, peut-être faisait des efforts encore plus grands, puis paraissait peut-être pas aussi importante dans l'Église, paraissait pas autant que les autres, mais était fidèle pour développer le caractère de Dieu, donnez-le à cette personne-là. Parce que celle-là est en voie de s'en aller vers le but. Alors, voyez-vous, la seule ligne, dans le fond, qu'on peut adopter, c'est celle que Dieu nous a montrée quand Pierre dit, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance. » Dans la grâce, c'est dans le fait de continuer à se repentir, de ne pas se décourager. Et quand on vient à l'Église, il ne faut pas voir ça comme ça tout d'un coup, puis là, on dit, moi, je ne suis pas capable d'y arriver. Personne n'est capable d'y arriver, mais on doit faire le chemin que je vous montre. Alors que le monde descend, nous, on est appelés, comme je vous dis, à aller vers le caractère parfait de Dieu. De tout cœur, de tout notre cœur. Malgré nos limitations, ça, c'est de croître dans la connaissance puis dans la grâce, de développer graduellement la nature de Dieu. Ça veut dire qu'on se trouve à ce moment-là, je reviens à ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, dans une situation difficile, parce qu'on devient de plus en plus différent du monde autour de nous. Et vous allez voir, plus on va avancer dans le temps, proche du retour de Christ, plus nous serons différents des gens autour, et plus nous allons être possiblement identifiés comme ça. Le Christ a dit, on ne peut pas mettre une lampe sans que personne la voie. On est des lumières, il dit, soyez les lumières du monde. Et Dieu peut même se servir de ça pour appeler d'autres personnes. On n'essaie pas de convertir les gens. S'ils nous posent des questions, on répond. Et on les aide s'ils veulent vraiment comprendre des choses. Mais notre rôle, en tant que membre d'Église, c'est d'être ces lumières-là. Mais c'est une situation difficile. Et là, on a besoin du Christ. On a besoin que le Christ vive en nous, qu'il combatte pour nous, qu'il nous aide, parce qu'on a besoin de la foi et on a besoin du courage. Mais ce n'est pas notre foi et ce n'est pas notre courage. Parce que si je compte seulement sur ma foi, ça ne vaut pas la peine de commencer. Et si je compte seulement sur mon courage, ça ne vaut pas la peine de commencer non plus ou de continuer. Il faut que je compte sur la foi du Christ. C'est bien ça que la Bible dit, hein? La foi du Christ, pas la mienne. C'est pour ça qu'il faut que je demande la foi du Christ. Et il la donne par son Saint-Esprit. C'est un des fruits de l'Esprit, d'ailleurs, dans Galates 5, verset 20, la foi ou la fidélité. Alors, il faut que je demande au Christ de mettre en moi sa foi, de mettre en moi son courage, puis de m'aider à aller de l'avant dans ce sens-là. Maintenant, on va examiner simplement quelques petites façons de nous purifier par rapport au monde qui est autour de nous. La question que je pose, c'est quoi la nature de mes pensées ou c'est quoi la nature de vos pensées? Je traite ça d'abord parce que tout commence dans nos pensées. Je pense que vous êtes conscient de ça assez. Tout commence, tout, là. Quand je dis tout, vos émotions commencent dans vos pensées. Vos attitudes, vos actions suivent les pensées. C'est tellement vrai, je vous donne simplement un exemple. J'arrive devant vous, par exemple, je connais ce qui vous a fait très mal dans le passé. Vous l'avez oublié. Moi, je vous rappelle cette chose-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je ramène à votre pensée un drame qui vous a peut-être frappé et que vous avez souffert. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous retrouver dans un peu les mêmes émotions que vous avez eues à ce moment-là parce que l'idée revient. Ou si je vous ramène quelque chose qui vous a tellement réjoui, fait tellement de bien dans le passé, vous allez vous sentir bien. Pourquoi? Parce que vos pensées sont ces pensées qui vous ont amené des bonnes choses. Tout commence dans la pensée, même nos émotions, même nos sentiments. Et c'est pour ça, allez dans Philippiens 4, on n'est pas loin, on est dans Philippiens déjà. Allez dans Philippiens 4. Voici quelques façons pour avoir des pensées qui vont nous aider à avancer vers la perfection de Dieu. Graduellement, Philippiens 4. Et Dieu les connaît, nos pensées. Puis c'est ce qu'on a besoin. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous toujours. » C'est un gros mot, là, « toujours » ici. « Réjouissez-vous toujours. » Même Paul le disait quand il était en prison. Pas un sujet de joie, cela, là. « Réjouissez-vous toujours. » Ça aussi, on ne l'a pas du premier coup. Mais on peut demander à Dieu de nous aider à avoir cette joie-là, de se réjouir toujours. On sait ce qui s'en vient, on sait la libération de l'humanité, on sait la libération de nos êtres chers, on sait que Dieu nous a promis toute l'aide nécessaire pour aller jusqu'au bout. Quand il arrive des temps difficiles, on en souffre, oui, mais on peut se réjouir quand même en disant « J'ai un Dieu sur lequel je peux m'appuyer n'importe quand. » Et il est en train d'accomplir son plan et il travaille avec moi. Et de se réjouir toujours, c'est une question aussi de décision. Quand je parle de choix de nos pensées, c'est une décision de choisir nos pensées. S'il y a des pensées mauvaises qui me viennent, j'ai le choix ou de la garder puis de tourner le film dans ma tête, ou de dire non, ça, je la garde pas cette pensée-là, je passe à autre chose, je trouve de quoi faire ou je m'oriente vers autre chose pour changer ma pensée justement. On a une maîtrise qu'on peut avoir, qu'on peut exercer sur nos pensées. Et c'est important qu'on le fasse. C'est un choix. Nos pensées sont des choix. Quand on ne le sait pas, on pense que ce qui nous vient à l'esprit, bien, c'est nous autres. Puis on le laisse aller. Mais on en est victime. Si c'est des bonnes choses, ça va, mais c'est pas toujours des bonnes choses. Alors, on a le choix de nos pensées. Quand ils arrivent, il faut les rejeter tout de suite. La Bible dit, « Résistez à Satan, il fuira loin de vous. » Et des fois, il y a des pensées qui nous viennent qui ne sont pas trop belles. Et parfois, il faut crier dans ce sens-là, dire « Dieu t'a promis que si on résiste à Satan, il va fuir. Donne-moi la force de résister. Aide-moi à passer à d'autres choses, aller ailleurs, changer de place, me trouver un autre centre d'intérêt ou d'activité dans le moment pour que je puisse vaincre ces pensées-là. » Et regardez le verset 6, ensuite, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est pas beaucoup. Ça ne comprend pas énormément de choses. Il n'y a pas une longue liste à faire pour décrire ce que c'est que rien. Il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Humainement, on n'est pas porté à s'inquiéter de rien. On est porté à s'inquiéter de beaucoup de choses. Il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais il donne la recette. « Faites connaître vos besoins à Dieu. » « Dieu, tu sais que j'ai besoin de telle chose. Je mets ça dans tes mains. Aide-moi, moi, à faire ce que j'ai à faire. Puis donne-moi la réponse à ce besoin-là quand toi, tu jugeras opportun au bon moment. » Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà comment mener le combat de la pureté qui commence dans nos pensées. Demandez à Dieu de nous aider à maîtriser nos pensées puis à faire un filtre dans les pensées qui nous viennent pour garder seulement celles qui nous aident à croître, à avancer vers Lui. Versets 8 et 9, après, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Ça, c'est notre travail. Pratiquez-le. « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Quelle promesse extraordinaire! Le Tout-Puissant de l'univers dit, « Si vous vous appliquez à faire ça, même si vous n'êtes pas parfait, je vais être avec vous, je vais vous soutenir, je vais répondre à vos prières. » Vous n'aurez pas tout ce que vous pensez à mesure que vous avez ou les conditions que vous mettez. On n'a pas de conditions à mettre. Mais j'ai à me remettre dans ses mains. Et là, Dieu agit en conséquence. Allez dans Romains chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose qui parle de moi ici et qui parle de vous. Romains chapitre 7. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on fait le contraire. Hein? Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais écoutez, ça là, c'est notre combat humain. C'est pour ça que je vous dis que ce passage-là que je vais vous lire, ça vous décrit et ça me décrit. Parce que ça décrivait un être humain qui avait les mêmes combats puis qui a eu l'ouverture d'esprit de l'écrire ici. C'est Paul. C'est un apôtre. Un ministre de Dieu, un apôtre, pas le moindre des apôtres, Dieu s'en est servi puissamment. Mais regardez ce que cet homme-là a vécu en tant que serviteur de Dieu. Regardez commençons au verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Là, on peut mettre notre nom. On vient de là. Il dit, « Moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Est-ce que c'est assez clair? L'apôtre Paul, il disait, « Ça m'arrive de manquer mon coup et de faire ce que je hais, qui est contraire à la loi de Dieu. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Notre nature humaine qui nous attire vers la convoitise, vers l'amertume, vers l'esprit de vengeance, vers toutes ces choses qui sont contraires aux lois de Dieu. Il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Non, parce que au point de départ, quand Dieu nous appelle, ce qu'on a à 100%, c'est la nature humaine influencée par Satan. Et là, à partir de là, Dieu commence à développer la nature divine en nous, sa nature, qui est complètement différente. Et il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et quand on le sait, on supplie Dieu en conséquence. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Dans ce temps-là, ça nous porte à nous décourager, mais il ne faut pas. Paul avait le même combat que vous, les mêmes combats que vous et que moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, la nouvelle intelligence des choses que Dieu nous a données. On prend plaisir à la loi de Dieu. Je la trouve belle. Et on sait qu'en observant ces lois-là, en vivant, ça rend les autres autour heureux et ça nous rend heureux. Ça enlève les conséquences négatives de toutes les transgressions. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, contre ce que je sais, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et regardez ce qu'il dit après. « Misérable que je suis, pauvre petit moi, misérable que je suis. » C'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit après? « Qui va me délivrer du corps de cette mort? » OK, parce que quand on pêche, on est sous la mort éternelle. Il dit « Qui va me délivrer? » Et c'est intéressant parce que la réponse, elle est tout de suite après. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans d'autres termes. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par le chef de l'armée de l'Éternel. » Par le Créateur de toutes choses. Dieu a créé toutes choses par le Christ et pour le Christ. Il a donné sa vie pour que lorsqu'on se repent de nos fautes, qu'on demande pardon, on puisse être lavé, qu'on puisse avoir son Saint-Esprit et être capable ensuite de développer son caractère. C'est seulement par lui que Paul a été capable de continuer à développer le caractère de Dieu et ne pas se décourager jusqu'au bout. Et ça va être exactement la même chose pour nous. Il ne faut pas se décourager, mais il faut compter sur Dieu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, lui demander de combattre pour nous, de combattre en nous. Et on le voit par nos attitudes, et on le voit par les choses nouvelles en nous. Parce que si on fait ça, puis qu'on s'applique à vivre selon les lois de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? On aura les fruits de l'Esprit qu'on voit dans Galates 5. On aura davantage de considération pour les autres, davantage d'admiration pour Dieu, davantage d'appréciation pour ce qu'il fait, davantage de patience, davantage de bonté. Pas parfaitement, mais ça va se développer graduellement. Et je vais un peu plus loin maintenant dans des choses pratiques de purification. Purifier notre langage, purifier nos divertissements aussi, nos propos. Parce qu'écoutez, physiquement, nous devenons ce que nous mangeons. Je ne vous apprends rien. Physiquement, on devient ce qu'on mange physiquement dans les aliments. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Et ça revient encore à nos pensées. Qu'est-ce que je laisse entrer par mes yeux, par mes oreilles, dans mon esprit? Ça m'influence. Il faut que je le sache pour être capable de mener les bons combats vis-à-vis des choses que je dois rejeter ou éliminer. Quelle sorte d'émissions de télévision j'écoute, si j'en écoute? Quelle sorte d'émissions de radio que j'écoute? Vous savez, parfois, il y a des émissions qui semblent anodines, qui semblent juste simplement de quoi, d'inoffensif, si vous voulez, de drôle même ou de léger. Mais si vous regardez comme il faut, souvent dans ces émissions-là, ça ne prend pas beaucoup de temps que là, il y a quelqu'un qui méprise quelqu'un d'autre, qui abaisse les autorités, qui abaisse le maire ou le premier ministre. Mais écoutez, est-ce que c'est des choses bonnes que je peux m'asseoir en avant puis regarder ça et laisser entrer ça dans mon esprit? La Bible nous dit « honorer ceux qui sont en poste d'autorité ». Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec eux, mais pourquoi je prendrais du temps pour écouter des gens qui rabaissent les autres ou qui ridiculisent les autres. Là, j'ai un choix à faire. Parce que si je laisse entrer ça dans ma pensée, c'est comme si je laisse entrer la nourriture physique qui n'est pas bonne physiquement, je vais en souffrir. Et spirituellement, si je laisse entrer ça, je vais en souffrir, absolument. Regardez Jude chapitre 8, juste avant le livre d'Apocalypse. Jude chapitre 8, ça vaut la peine qu'on regarde ça. Pour faire attention à ce qu'on écoute, parce que ça nous reste. Ça devient peu à peu nos pensées et nos paroles aussi. Jude, versets 8 et 10. Ici, il parle de gens qui agissaient mal. Il dit, « Malgré cela, verset 8, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement la chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Et il donne un exemple, après ça, d'être beaucoup plus puissante que nous, les serviteurs de Dieu, les anges, qui ne font pas ces choses-là, même par rapport à Satan. Regardez bien. Or, l'archange Michael ou Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Ben oui, il ne l'a pas accusé non plus. Il ne l'a pas rabâché non plus. Tout ce qu'il a dit, que le Seigneur te réprime. Voyez-vous? Alors, il s'est maintenu, il s'est gardé. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ainsi de suite. Et regardez le verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs. Et il y en a de plus en plus de moqueurs. Vous regardez les tribunes libres, vous regardez les émissions radiophoniques d'opinion, vous regardez ces choses-là. C'est de rabaisser les autres, c'est d'accuser, c'est de toujours montrer que nous, on a raison alors que tout le monde a tort. Tout ce qu'on voit là, marchant dans leur propre convoitise impie, ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. C'est fort, c'est fort. On doit respecter les dirigeants de nos nations, toutes les autorités, même si, comme je vous dis, on n'est pas d'accord nécessairement avec tout ce qu'ils font. Est-ce qu'on regarde des spectacles d'humour à la télévision? Franchement, là, je ne sais pas si vous pouvez en trouver un qui a du bon sens. Si oui, vous me le direz. Mais il n'y a plus de ce genre d'humoriste qu'on avait il y a un certain nombre d'années, qui avait un humour intelligent, un humour subtil. Je me rappelle de Marc Favreau, Sol. Je me rappelle, je pense, Raymond DeVos en Europe, où ces gens-là avaient un humour qui était vraiment fin et qui n'était jamais en bas de la ceinture, qui n'était jamais malpropre. C'était vraiment un humour intelligent. Le tout premier verset du livre des psaumes. Allez à psaume chapitre 1, s'il vous plaît. Psaume chapitre 1, ça vaut la peine. Psaume chapitre 1. Dès le début, le livre des psaumes commence avec ça. Psaume chapitre 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Qu'est-ce que j'ai à m'arrêter à regarder des films où il y a de la violence, où il y a de la sexualité, où il y a de la fornication, où il y a des adultères, où il y a tout ce que vous voulez de contraire aux lois de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à regarder ça, moi qui veux penser autrement, qui veux revêtir les pensées du Christ, qui veux développer le caractère de Dieu? Il faut être conscient de ça, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut être conscient de ça pour faire le ménage là-dedans, pour rester avec les choses de Dieu. Restez avec les choses de Dieu. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et si je m'assois devant une télévision ou dans une salle de spectacle face à des moqueurs qui ridiculisent les autorités ou les gens dans la société ou qui que ce soit autour ou les autres acteurs ou tout ça, je participe à ce qu'ils font. C'est ça que ça veut dire. Je participe à ce qu'ils font, je les approuve et je touche ce qui est impur. Non seulement j'y touche, je m'assois et je le garde et je m'en nourris. Et je serais surpris après d'avoir une opinion négative par rapport à un tel qu'ils ont méprisé ou ridiculisé dans ces spectacles-là. Ça vient dans quelque part, ça vient de quelque part. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire un ménage. Nous, on a un rôle à jouer pour se protéger puis faire comme Dieu nous demande. Regardez le verset 2. « Mais heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, on étudie sa parole chaque jour, on s'applique à la mettre en application, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais Dieu l'amène à terme pour les choses essentielles qu'il a pour lui. Je vais vous donner une idée encourageante pour vous. Moi, ça m'a encouragé à un moment donné en préparant le sermon, quand j'ai pu développer ça. Je vous pose une question. Est-ce que David était un homme pur dans ses voies? Est-ce que David était un homme parfait dans ses voies? Pourtant, c'est un homme qui est important aux yeux de Dieu, là. David n'était pas parfait et David n'était pas totalement pur dans ses voies. OK? Mais il travaillait pour l'être, par exemple. Je vais vous donner la description, et on doit devenir comme lui. Comment? Mais là, je vais plus loin. Il n'était pas pur dans ses voies totalement. Il n'était pas totalement parfait, absolument pas. Mais comment ça se fait que Dieu l'appelle un homme selon son cœur qui va accomplir toute sa volonté? Là, je mets en contraste deux choses qui ne semblent pas aller ensemble. Comment Dieu pouvait dire ça de David alors que David manquait de temps en temps son coup, puis parfois, entre guillemets, royalement, de façon magistrale, c'est arrivé. Comment ça se fait? Pourquoi? C'est simple. La même chose qu'il nous est demandé. Parce que David se repentait. Lorsqu'il péchait, il se repentait de tout son cœur, pas du bout des lèvres, de tout son cœur. Il a pleuré plusieurs fois même. De tout son cœur, il se repentait. Et quand Dieu voit ça, ça le touche. Il est prêt à nous aider. Il se repentait de tout son cœur. Il demandait pardon à Dieu. Et il travaillait pour ne plus répéter la faute. S'il fallait qu'il s'éloigne de certaines personnes, il le faisait. S'il fallait qu'il mette certaines choses de côté, il le faisait. Il faisait sa part, mais il demandait à Dieu de l'aider. Et moi, je vous dis ceci, c'est pour ça que je vous dis que c'est encourageant ce que je vous montre maintenant. Si vous le faites, si vous faites comme David, quand vous manquez votre coup, vous demandez tout de suite pardon à Dieu et vous lui demandez son aide pour ne plus répéter ces fautes-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous êtes un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, qui est en train d'accomplir toute sa volonté. Vers la même direction dans laquelle David était orienté. David a travaillé toute sa vie pour devenir de plus en plus comme Dieu, comme nous, on a à le faire, sans nous relâcher, sans nous décourager. Allez à Psaume chapitre 19. On est dans les psaumes. Allez à Psaume chapitre 19, s'il vous plaît. Verset 15. Psaume 19 et le verset 15. Regardez ce qui est écrit ici. Bien, dans Louis II, je vais vous donner ce qui est écrit, mais je vais vous redonner ensuite le sens original. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche, David dit ça, et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. » Dans le texte original, ou si vous allez dans la version du roi Jacques, King James, en anglais, ça dit ceci, « Fais, Dieu, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, mes pensées, soient acceptables à tes yeux. » Voyez-vous, ça commence dans les pensées, c'est pour ça que je reviens à ça. Il dit, « Dieu, fais. » C'est-à-dire qu'il demande à Dieu de lui aider de faire ça. C'est Dieu qui nous rend capable de faire. Il dit, « Dieu, fais que mes pensées soient plaisantes à ton regard, à tes yeux, et que mes paroles soient également plaisantes pour toi, soient acceptables à tes yeux. Ô Éternel, ma force et mon rédempteur. » La force, elle vient de là. Et il demande à Dieu de faire en sorte qu'il soit comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler en ce sens-là. On a besoin d'avoir des divertissements, mais il faut se trouver des divertissements qui sont, selon Dieu, qui ne nous amèneront pas sur des fausses pistes. Comme je vous disais tantôt, des films où il y a de la violence, où il y a de la sexualité perverse, ou un langage vulgaire, ou des standards qui ne sont pas ceux de Dieu. Des films où il y a du démonisme, des vampires, si vous voulez, de la fornication, des adultères, de la violence, des Harry Potter et toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des choses pour les enfants de Dieu, absolument pas. C'est absolument contraire. On veut être intègre, on veut être pur et on ne veut pas laisser entrer dans nos pensées des choses qui sont contraires à Dieu. La sorcellerie non plus, la même chose, la divination, tout ce que vous voulez, Dieu dit ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ce qui est impur, laissez pas entrer ça dans votre esprit. Et être intègre ou être pur, c'est une autre façon de le dire, c'est qu'on doit être la même personne partout, à l'église, au travail, à l'école, avec nos amis, avec nos voisins, parce qu'on doit être une seule personne, la même personne. On ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas jouer deux jeux. J'ai resté surpris l'autre jour, j'ai entendu un ministre de l'Église dire qu'il admirait quelqu'un dans son Église, et puis jusqu'au jour où malheureusement il est tombé sur le profil Facebook de cette personne-là. Et quand le ministre a vu le genre de film que cette personne-là recommandait, le genre de choses que la personne aimait et tout ça, c'est entièrement contraire aux lois de Dieu. Là, le ministre a dit, écoutez, il y a deux personnalités, là. Il y a une personnalité à l'Église qui paraît, d'une certaine façon, mais lorsque la personne est seule avec Internet et avec Facebook, c'est toute une autre histoire. Donc, faut faire attention à ça. L'intégrité, c'est l'intégrité de la personne tout le temps. Alors, être ce qu'on est, mais toujours. On veut être intègre et pur, mais le monde cherche à nous entraîner, lui, vers le bas, dans une autre direction. Question importante pour vous, est-ce que je tolère, est-ce que je me permets de voir et d'entendre des langages vulgaires ou méprisants, de la violence et ainsi de suite, en me disant, par exemple, qu'après tout, dans cette émission-là, ou dans ce film-là, il y a seulement deux ou trois scènes là, qui sont osées ou qui ont un langage malpropre ou qu'il y a de la violence ou qu'il y a juste deux ou trois adultères puis quelques mensonges. Mais le restant du film, c'est bon. Ah oui? C'est bon? Je prends souvent l'exemple d'un verre de bon jus d'orange. Si on met une goutte d'arsenic dedans, c'est du poison. Et c'est la même chose pour nous. Ça, il faut le savoir. Ces choses-là, il faut les éliminer de notre vie. Pour ne pas avoir affaire à ça, ne pas laisser entrer ça, on doit être intègre. On doit s'en aller vers une seule nature, la nature de Dieu. On doit enlever la nature humaine, la nature qui pêche. Allez dans Ésaïe maintenant, chapitre 1. On n'est pas loin, on est dans Psaume. Allez dans Ésaïe au premier chapitre. Ésaïe, chapitre 1, versets 15 et 16. Voyons ce que notre Dieu dit par rapport à son Église, par rapport à la fiancée du Christ. Versets 15 et 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. si je garde cette double personnalité-là et que je garde volontairement, sans vouloir les changer, des choses mauvaises dans ma vie, des choses qui sont contraires aux lois de Dieu, Dieu nous dit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, j'écoute pas. J'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc, si je participe à ces choses-là, directement ou indirectement, par télévision interposée ou par Internet ou tout ce que vous voudrez, il dit, si vous faites ça, je peux pas vous entendre. Parce que ça dit ailleurs, ce sont vos crimes qui mettent un mur entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir à cœur de dire, OK, je suis pas parfait. Mais avec son aide, je vais changer, je vais y arriver. J'y arriverai pas aujourd'hui, mais je vais y arriver un jour complètement, mais entre-temps, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais regardez le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit de faire à nous qui sommes appelés? Lavez-vous, purifiez-vous. Dieu est prêt à nous accueillir et il veut nous accueillir. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Ça, c'est notre part du contrat. Je vous donne une puissante règle à appliquer qui va peut-être vous aider. Si vous avez une situation dont vous n'êtes pas sûr, est-ce que je devrais écouter ça? Est-ce que je devrais écouter cette émission de radio-là ou regarder ce film-là ou regarder telle chose à Internet? Mettez-vous la règle suivante. Si le Christ lui-même était assis à côté de moi, est-ce que je regarderais la même émission? Est-ce que j'écouterais les mêmes propos? Si le Christ était là, à côté de moi. Ça, ça nous aide. Quand on pense comme ça, ça nous aide à éliminer plein de choses. Ça aide à éliminer plein de choses, oui. C'est comme quand on voulait faire quelque chose de pas correct et nos parents n'étaient pas là. D'un coup, nos parents arrivaient. On voulait pas qu'ils voient. On voulait pas qu'ils sachent qu'on avait fait ça. Moi, j'ai déjà fait fumer mon frère, qui était tout jeune. Et puis, j'étais certain que les parents étaient partis pour longtemps. On fumait à cachette. Et je l'avais fait fumer. Il était venu vert. Puis, juste au mauvais moment, mes parents sont arrivés. Alors, la suite, je vous l'épargne. mais c'est ça, on n'aurait pas voulu que les parents soient là. Mais si mon père avait été à côté, je n'aurais pas donné de tabac à mon frère. Et j'en aurais pas fumé moi-même non plus. Alors, voyez-vous, si on prend ce critère-là, ça peut nous aider. Est-ce qu'un tout petit peu de mal ou de transgression est acceptable aux yeux de Dieu? Pas du tout. Parce qu'il veut que son épouse soit pure. Je vais vous donner une image très forte maintenant par rapport à ça. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Une pomme pourrie peut détruire tout un baril de pommes. Un peu de péché qu'on garde volontairement, je ne parle pas d'un péché qu'on a de la difficulté à éliminer puis qu'on travaille dessus, mais qu'on garde, qu'on conserve, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un peu comme la fièvre hémorragique. Si vous regardez qu'est-ce que c'est les fièvres hémorragiques, il y a plusieurs formes de fièvre hémorragique. Mais ça, c'est un état causé par un virus, et à l'intérieur de 24 ou 48 heures, ce qui se passe, c'est que les organes internes de la personne, l'estomac, le poumon, les poumons, le cœur, se liquéfient. Ils deviennent liquides. La personne fait une hémorragie interne. Il y a différentes formes de fièvre hémorragique comme ça. Alors, voyez-vous, une toute petite quantité peut causer des dommages effroyables. Par exemple, si ce soir, en allant prendre votre bain, vous saviez que quelqu'un avait mis une goutte de ce virus-là dans l'eau du bain, je ne pense pas que vous entriez dans la baignoire. Je pense que vous resteriez loin de la baignoire. Pourtant, c'est juste une goutte, ou même une portion de goutte. Parce que le virus étant là, ça peut causer ça. Voyez-vous? Alors, ça nous donne une idée de l'ampleur de la gravité du mal. C'est toutes ses formes. On ne doit pas se décourager pour ça, parce que Dieu nous aide à arriver au bout. Mais ça nous montre qu'est-ce qu'il y en est. Un tout petit peu de mal qui entre par nos yeux, par nos oreilles, ou un tout petit peu de péché cause la mort éternelle, tout simplement. C'est la même chose. Il n'y a pas de gros puis de petits péchés. On en parlait tantôt. Il n'y a pas de gros puis de petits péchés. Une transgression, c'est une transgression. Puis lorsqu'on transgresse, on est sous la loi. On est sous l'amende de la loi. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on ne pourra pas entrer dans le royaume si on manque notre coup? Non, David a manqué son coup à différentes occasions, mais il a travaillé, comme je vous dis, à changer. Mais l'idée, c'est de ne pas tolérer le péché, de s'en éloigner le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Psaume 8, verset 13, vous pourrez vous y reporter, je vous le cite, Psaume 8 et le verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Maintenant, je vous explique quelque chose ici. La crainte de l'Éternel, le fait de respecter notre Dieu qui nous a donné la vie puis qui nous montre à quoi il nous appelle, à un avenir glorieux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. En tant qu'être humain, je ne vous apprends rien là, mais il y a beaucoup d'aspects du mal que nous aimons. Honnêtement, je vous le dis. Honnêtement, je vous le dis. J'ai eu à combattre, puis j'ai encore à combattre des choses que j'aimais. Parce qu'on aimait faire les transgressions. Notre nature humaine aimait certaines choses. Peut-être certaines choses que moi, j'aimais, vous n'aimiez pas. Peut-être que certaines choses vous aimiez, qui étaient des transgressions que moi, ça ne m'attirait pas. Mais quoi qu'il en soit, tous les êtres humains sont attirés par différentes formes de mal, de transgression, de la loi de Dieu. On part de là. On part de la première ligne en bas tantôt, là, de ce qui est contraire à Dieu complètement. Et on doit changer. Au point, pas seulement de travailler à éliminer le mal, mais qu'en cours de route, avec l'aide de Dieu, on développe ce qui est marqué dans Psaume 8, verset 13, d'en arriver à haïr le mal. Haïr le mal. On l'aimait au point de départ. On est en route pour changer. Il y a même des choses qu'on change, qu'on aime encore, mais on les met dehors. On les met dehors. Et puis, graduellement, plus on comprend la gravité de nos fautes, comment on comprend toutes les souffrances que ça crée, plus on peut en arriver à haïr le mal, comme il nous est mentionné ici. On doit en arriver à ça. Pourquoi? Parce que le mal cause inévitablement énormément de souffrances, de misère, de malheur. On le voit dans le monde partout autour de nous. Les foyers brisés, les enfants abandonnés, les guerres, la violence, le vol, la malhonnêteté, la corruption à beaucoup de niveaux dans la société et tout ça. Ça, c'est des transgressions de la loi et on voit toutes les souffrances que ça amène. Alors, on doit nous arriver à haïr ce mal-là qui fait souffrir tellement de monde et ce mal-là qui a causé aussi la mort horrible de notre Créateur, qui a dû s'offrir lui-même pour payer à notre place l'amende de toutes nos fautes. Et ce mal-là aussi, on doit l'haïr pour une autre raison aussi, parce qu'il peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Il peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu et provoquer le fait qu'on soit éliminé à jamais. Alors moi, je vous dis une chose, on célèbre la belle fête des pains sans levain. Vous êtes ici et vous démontrez par ça à Dieu que vous voulez continuer le combat. Continuez-le, le combat. Il n'est pas fini. Mais on a le chef de l'armée de l'Éternel qui est avec nous, qui va nous donner la force pour aller au bout, pour devenir vraiment pur, pour devenir intègre dans un monde spirituellement de plus en plus contaminé. Si vous le faites, si vous persévérez à vous éloigner de ce qui est impur, votre Père au ciel va en être heureux. Ça va lui plaire et il va se tenir à vos côtés jusqu'au bout, quoi qu'il vous arrive. Quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles nous allons nous trouver. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans Apocalypse 18, verset 4. Ça rejoint le principe que je vous ai donné dans d'autres versets au début du sermon. Quand Dieu dit, et il parle du temps de la fin, « Sortez d'elle, sortez des façons de faire de la société actuelle. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Parce que si je garde une participation au péché de la société qui est en train de mourir, je ne me purifie pas réellement. Je ne me purifie pas réellement. Et je me prive de la protection de Dieu et de sa présence. » Il dit, « Sortez du milieu d'elle. Efforcez-vous de sortir. Je vais vous aider. Afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Parce que très bientôt, il y aura les fléaux qui vont s'abattre sur le monde pour ceux qui vont faire partie de cette société. On ne veut pas être là. Dieu nous a appelés à autre chose. Et Dieu nous a donné des promesses tellement extraordinaires. Allez, en terminant, un dernier verset dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, et on va lire le verset 9 et 10. « Et ce que je demande dans mes prières, » c'est Paul qui parle, « c'est que votre amour augmente. » L'amour de Dieu consiste à quoi? À observer ses commandements. Il dit que votre amour augmente. Ça ne vient pas d'un coup. Il y a une augmentation, c'est un processus. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Afin, quoi? Que vous soyez purs et irréprochables. On ne peut pas l'être avant le retour de Christ, mais regardez ce qu'il dit ici. « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » De quel jour il parle? Du jour de son retour. Regardez bien ce qui va se passer ce jour-là, si vous êtes en train de le faire. Il dit, « pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et quand on fait ça, on glorifie notre Dieu, on le réjouit, on réjouit notre Papa au ciel. Si vous persévérez, si nous persévérons à vivre sans levain, c'est ça le sens de la fête des pains sans levain, à développer le caractère de Dieu, à combattre nos faiblesses, et on va devoir le faire jusqu'au retour de Christ. Le jour où Jésus reviendra, Dieu va nous rendre parfaits. Hey, c'est quelque chose, ça. Il va nous rendre parfaits totalement. Totalement purs, totalement intègres, capables de ne plus jamais pécher pour l'éternité. Ce sera fixé éternellement dans la famille de Dieu. Il va fixer définitivement le caractère divin que nous sommes en train de développer si nous continuons à travailler sur ce caractère-là jusqu'au retour de Christ. Le jour où le Christ va revenir, il va fixer définitivement ce caractère divin en éliminant ce jour-là ce qui va rester encore d'impureté parce qu'on ne sera pas encore parfait. Mais il dit, et c'est une promesse, qu'il va nous rendre parfaits. Donc, ce qui restera encore d'impureté d'une autre nature en nous, il va l'éliminer ce jour-là pour que nous devenions de même nature que lui, que nous atteignions sa perfection et que nous puissions recevoir sa gloire. Et je vous dis une chose, c'est qu'à ce moment-là, nous aurons uniquement une seule nature. La nature humaine sera complètement disparue de nous. Il n'y aura plus aucune tache, aucune impureté, aucune faiblesse, rien. Nous allons avoir parfaitement la seule et unique nature de Dieu. Gardez la promesse au verset 6. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre de vous amener jusque dans sa famille, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà l'objectif qu'on a. Voilà la grande motivation que le Dieu vivant nous donne. Une promesse extraordinaire. Il dit, continuez le combat. Je suis avec vous et je vais vous amener à terme. Si vous n'abandonnez pas, si vous travaillez avec mon aide à vous purifier jusque-là, je vais m'occuper de vous et je vais vous rendre parfait le jour où le Christ va revenir.